Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello la team podcast, ici Pauline Léniaud. D'abord, j'espère que vous allez bien et je vous emmène aujourd'hui pour un nouvel épisode d'une leçon. Alors pour ceux qui ne sont jamais venus ici, c'est simple, les leçons c'est quoi? C'est 30 minutes où on discute avec l'un de vous, ah ouais, l'un des auditeurs de ce podcast, et où j'essaye de répondre tant bien que mal, c'est pas tous les jours facile, à l'une de vos questions. C'est des questions très variées en général, ça peut être du développement personnel, ça peut être de l'entrepreneuriat, des relations humaines, bref, on brasse large ici sur les leçons, mais quoi qu'il en soit, on passe toujours un très bon moment. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Yannick, qui est entrepreneur et fondateur d'une agence de publicité, d'une agence de com dans le sud de la France. Vous allez entendre son accent, ça fait plaisir à entendre. Il y a du soleil dans sa voix. Je te remercie encore pour ça, Yannick. Et donc, Yannick se pose une question puisque son entreprise se développe tellement vite qu'il a presque du mal à suivre. Et donc, il me pose la question suivante. Comment faire quand l'entreprise grandit en effectif très rapidement, mais que la marge, elle, ne progresse pas et que les soucis s'ajoutent à tout cela? Est-ce qu'il faut rester petit et optimiser cette structure pour tirer les revenus à la hausse? Ou est-ce qu'il faut continuer à grossir au détriment parfois des marges et de la rentabilité, ainsi que de la tranquillité? Un sujet très intéressant, un sujet de stratégie au fond, aussi de stratégie humaine en tant qu'entrepreneur, de se poser la question, est-ce qu'il faut en permanence appuyer sur la pédale de l'accélérateur ou de temps en temps faire des pauses? Une question qui, évidemment, a été aussi au cœur de mes préoccupations pendant de nombreuses années et que j'ai été ravie d'évoquer avec Yannick. Donc, je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Yannick, bienvenue sur le podcast.
Salut Pauline.
Écoute, merci d'avoir accepté cette invitation et d'avoir posé une question. D'ailleurs, j'en profite, je fais une petite parenthèse Yannick avant de te poser ma question. C'est juste pour dire à tous ceux qui nous écoutent, qui souhaitent également poser une question sur une leçon, eh bien n'hésitez pas tout simplement à envoyer un mail à hello@paulinelenio.com. Envoyez-nous un mail avec votre question, on y répond et puis peut-être que comme Yannick, vous serez de l'autre côté du fil dans pas très longtemps. Voilà, fermeture de parenthèse. Yannick, est-ce que tu peux s'il te plaît commencer par te présenter? Et puis ensuite, me dire qu'est-ce qui t'amène ici?
Eh bien, écoute, moi, je m'appelle Yannick Revel. Je suis patron d'une agence de presse et de communication que j'ai fondée en avril 2019. Ce qui m'amène ici, tout simplement, c'est que j'ai créé cette agence en 2019. La première année, ça a relativement bien marché dès le départ, en tous les cas, un peu plus que ce que j'imaginais. Donc, j'étais assez content. La deuxième année est arrivée, le Covid en 2020, et après quelques petites semaines d'inquiétude, au final, ce qui s'est passé, c'est tout à fait le contraire de ce qu'on pouvait penser au départ, c'est-à-dire que j'ai explosé littéralement avec le Covid. Donc, mon activité a augmenté de plus en plus. J'ai dû recruter. Donc, en 2019, on est passé de 3 en 2020. Et en 2021, cette croissance a continué à augmenter. Puisque donc j'ai dû recruter encore. Maintenant, donc on est 5 dans l'agence. On a fait donc le chiffre d'affaires de 2020 de la N+2 a été multiplié par 2 par rapport au chiffre d'affaires de l'année 1. Et le chiffre d'affaires de N+2 a été multiplié par 2 à nouveau par rapport au chiffre d'affaires.
Mais c'est incroyable cette histoire. C'est l'histoire de rêve de tout entrepreneur, là, ce que tu es en train de me raconter, Yannick. C'est génial. Félicitations.
Exactement. Alors, sur le papier, tout ça, c'est super beau, effectivement. Je suis hyper content. Attention, je ne vais pas cracher dans la soupe. C'est super. Mon chiffre d'affaires a augmenté. J'ai 5 salariés, en plus de tous les freelances que je fais travailler, puisque je fais travailler environ 10-12 freelances chaque mois. Sur divers dossiers. Donc, c'est vrai qu'au final, on brasse du chiffre d'affaires. Mais à la fin du mois, tu le sais bien, quand on gère une entreprise, on doit payer tout le monde. Ouais. On paye ses salariés, on paye ses freelances, on paye toutes ces charges inhérentes à l'entreprise. Et en réalité, ce que je me suis rendu compte à la fin de l'année 2021, c'est que malgré ce chiffre d'affaires qui a véritablement fortement augmenté, eh bien, je n'ai pas plus de bénéfices en fin d'année que la première année. Donc, ouais. C'est ça qui m'a légèrement, fortement interpellé. Et je me suis dit, mais à quoi bon se casser la tête pour avoir beaucoup plus de clients, donc beaucoup plus quand même de sujets à traiter, beaucoup plus de soucis aussi.
On peut le dire, beaucoup plus d'emmerdes, Yannick.
Voilà, je n'osais pas le dire, mais c'est vrai que, voilà, est-ce que tu te casses le bol pour gagner plus ? Ok, mais quand c'est pour gagner finalement pareil, voire même un petit peu moins, je te dis, est-ce que tout ça en vaut vraiment la peine ? Donc, je me posais la question, et c'est pour ça que je te la pose aujourd'hui, dois-je continuer vraiment à tout prix cette croissance ? Parce que finalement, je me demande si la croissance pour la croissance, je pense que ce n'est pas forcément utile, parce qu'avec tous les inconvénients que ça génère, ou dois-je plutôt me concentrer sur mon cœur de métier, quitte à renier la croissance un petit peu dans un certain temps, mais à optimiser plutôt la structure que j'ai commencé déjà à mettre en place aujourd'hui, quoi.
Bah écoute, déjà je te remercie pour la question parce qu'elle est vraiment hyper intéressante et je tiens juste à dire, mais tu t'en doutes qu'il n'y a pas de bonne réponse et qu'en fait c'est toi qui dois sentir ce que tu veux faire. C'est une question de stratégie tout simplement, stratégie d'entreprise quoi. En fait ta question en gros c'est est-ce que moi je veux maximiser souvent ce qu'on appelle dans le jargon un peu des investisseurs la top line, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, ou est-ce que, et souvent ça se fait effectivement comme tu dis justement au détriment de la rentabilité, parce que plus tu essayes de pousser sur la croissance, plus tu fais de l'investissement, plus en fait tu peux pas être très bon gestionnaire quand tu as énormément de croissance, quand tu fais x2 comme toi, x3 par an, forcément il y a un peu des gouttes d'eau qui sortent du vase un peu partout, enfin tu vois c'est pas hyper cadré, c'est normal parce que tu as trop de choses à gérer. Donc souvent effectivement quand il y a beaucoup de croissance, la rentabilité est un petit peu en baisse, et c'est d'ailleurs tout l'objet des startups qui sont très rarement rentables. En général, d'ailleurs, c'est plutôt des gouffres Afrique, très honnêtement, mais qui arrivent à générer énormément de croissance. Et à l'inverse, tu as l'autre option qui est d'être une entreprise, j'imagine que tu es déjà rentable, mais plus rentable, très rentable. Et souvent, ça se fait au travers d'un arbitrage qui est que tu es obligé de limiter un petit peu la croissance, en fait, tout simplement pour passer plus de temps, non pas à développer, mais passer plus de temps à gérer, à optimiser, à faire en sorte que ça tourne bien. Donc, en fait, malheureusement, je vais peut-être pas être d'une super aide pour toi sur ce sujet, parce que même si j'imagine qu'il y a des points d'amélioration et que tu peux quand même conserver une forte croissance avec une rentabilité supérieure à ce que tu as maintenant, malgré tout, il y a un choix à faire, un arbitrage. Moi, ce que j'aurais envie de te dire, du coup, c'est toi, qu'est-ce qui te plaît le plus, tout simplement ? Est-ce que c'est le développement ? Auquel cas, continue à foncer et accepte effectivement l'idée selon laquelle tu vas peut-être pas être aussi rentable que tu pourrais être si jamais tu étais plus en mode stationnaire, tu vois, à optimiser les coûts. Ou est-ce qu'au contraire, tu as plus envie de gagner de l'argent, ce qui est tout à fait légitime. Tu as envie de pouvoir plus te reposer aussi, parce qu'il y a quand même une réalité, c'est que la croissance, c'est très fatigant. Et du coup, tu vois, il y a cet arbitrage à faire. Et je tiens juste à dire qu'en plus, non seulement il n'y a pas de mauvaise et de bonne réponse, mais en fait, dans la vie d'une entreprise qui est très longue, là, tu n'en es qu'à 3 ans, en fait, il y a forcément des phases qui vont être des phases d'investissement et de croissance et du coup, un petit peu de baisse de rentabilité. Puis à l'inverse, il y a des phases de très forte rentabilité où tu vas plus investir sur la gestion. Donc, c'est plus une question pour moi de timing et de ta stratégie personnelle à toi en tant qu'entrepreneur, tu vois, Yannick, plus que est-ce qu'il y a une bonne ou une mauvaise réponse, tu vois.
Ouais, c'est exactement ça, parce que en fait, quand je t'ai envoyé le mail pour te poser cette question, j'étais vraiment dans cette période, comme tu l'as dit, de fatigue, parce que c'est vrai que la croissance est hyper fatigante, on a beaucoup de sujets à traiter en même temps. Et du coup, notamment des sujets qu'on ne connaît pas, puisque le recrutement, se séparer d'un salarié, des choses comme ça que j'avais jamais fait jusqu'à présent. Donc, des choses qui prennent de l'énergie aussi, mentale et physique. Et puis à côté de ça, il y a la vie de famille, il y a tout le reste aussi. Ouais. Le temps est précieux. Donc c'est vrai que je me retrouve un peu à cette croisée des chemins. Mais du coup, la réflexion, elle est un peu dans ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que j'ai dû me recentrer un petit peu sur moi-même et me demander qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce qui me plaît surtout de faire. Donc, moi, ma forme de réponse, ça a été celle-là. Ça a été de me concentrer finalement sur les sujets qui me plaisent le plus, quitte à refuser des clients. Et j'ai mentalisé, en fait, j'ai accepté mentalement le fait de ne pas grandir, on va dire, alors grossir, parce que je me souviens d'un podcast où tu avais dit « il ne faut pas confondre grossir et grandir ». Et donc, j'ai accepté mentalement de ne pas grossir cette année, quitte à faire le même CA ou même un petit peu moins, mais en tous les cas, de monter en qualité et en gamme. Et au final, en faisant cette concession psychologique, de me dire, j'ai monté plusieurs steps, j'ai monté plusieurs marches cette année, je vais peut-être pas en monter et je vais consolider. Mais au final, en ayant fait ce choix-là, je me rends compte depuis quelques semaines que, à nouveau, le business revient sans que je le demande, et justement pile dans les domaines que j'avais ciblés. Donc finalement, je me demande si les feux verts vont pas être à nouveau ouverts vers une croissance, mais une croissance peut-être un peu plus maîtrisée finalement.
Ouais. Tu vois, moi pour te donner quelques exemples personnels, que ce soit avec Gémio ou avec le podcast, il y a eu des périodes où on avait des très très fortes croissances voulues, où on était vraiment en très fort développement. C'était le cas par exemple l'année dernière en 2021 et même en 2020 pour Gémio par exemple. Cette année, on a fait le choix au contraire avec Gémio de continuer à croître, mais tu vois, de baisser la croissance, c'est-à-dire que plutôt que d'être à 70-80% de croissance, d'être plutôt sur des croissances plus raisonnables de 30%, parce qu'en fait, il y a une forme d'épuisement même de l'équipe qu'il faut prendre en compte. C'est vrai que quasiment doubler son chiffre d'affaires en fait d'un an sur l'autre, c'est énorme, surtout quand on a déjà des structures importantes. Et du coup, je trouve pas mal le rôle du dirigeant de sentir ça, tu vois, c'est un peu intuitif pour soi-même, pour son équipe, de se dire, en fait, il y a un moment donné, si c'est pas un sprint et que c'est un marathon que je veux que ça dure, je peux pas être en permanence à 100%. De temps en temps, en fait, il faut que j'accepte, comme tu dis, de faire des compromis, de lâcher un petit peu le pied, tu vois, de l'accélérateur. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le remettre plus tard, mais il faut aussi, tu vois, accepter de faire des pauses, de prendre des vacances, de prendre un peu moins de clients pour toi et pour tes collaborateurs. Donc moi, je trouve ça hyper sain, en fait, surtout si tu le switches sur un peu plus de qualité. C'est ce que j'ai fait aussi pour tout dire sur le podcast, parce que j'avais tellement d'activités sur Gémio que le podcast se développait très bien et toutes mes activités de formation. J'ai fait le choix vraiment conscient, tu vois, de faire moins de formations. L'année dernière, j'en ai fait que deux sur l'année, alors que j'aurais pu en faire trois ou quatre, juste parce qu'en fait, j'avais pas envie de m'épuiser, d'épuiser mon équipe, alors que j'avais déjà bien d'autres choses à faire avec Gémio. Donc en fait, il y a vraiment, si tu veux, une stratégie à avoir d'hygiène de vie, et moi je trouve ça hyper important de connaître ses limites en tant qu'entrepreneur, parce qu'une fois de plus, là c'est génial, t'as déjà énormément de succès en 3 ans, mais dis-toi que tout le mal que je te souhaite, c'est que ça dure encore 10, 15 de plus, voire peut-être 30 de plus. Et le truc, c'est que pour que ça dure longtemps, faut quand même tenir le coup, quoi. Et ça, je le dis, parce que le nombre de personnes qui font des burn-out ou des pas loin de burn-out, tu vois, et qui à un moment donné pète un câble vraiment parce qu'en fait ils ont trop poussé, ils ont trop tiré sur la corde, c'est trop dommage. Donc t'as tout à fait raison en fait de t'en rendre compte maintenant et de te dire ok, franchement là c'est déjà 2 ans, franchement à ce rythme là c'est énorme, je peux peut-être lever un peu le pied, passer un petit peu plus de temps avec ma famille, responsabiliser aussi les gens de mon équipe, comme tu dis, assainir, faire grandir, développer aussi les personnes qui sont dans ton équipe pour qu'elles deviennent plus autonomes et que t'aies aussi peut-être moins de temps consacré, de telle sorte qu'ensuite, tu vois, tu as des piliers solides sur lesquels, après, tu pourras remettre une couche de croissance forte, mais où tu ne seras pas obligé, si tu veux, de tout tenir à bout de bras. Parce qu'aussi, c'est ça la réalité, c'est quand on fait de la croissance, de la croissance, de la croissance, on ne se rend pas compte, mais en tant qu'entrepreneur, en fait, c'est pas pour minimiser le travail des coéquipiers, mais en fait, souvent, l'entrepreneur, en fait, c'est lui qui développe beaucoup, et donc les coéquipiers suivent derrière. Et donc, c'est l'entrepreneur qui tient quand même pas mal à bout de bras tout un certain nombre de décisions. Et le jour, si tu veux, où il pète un câble et où ça se passe moins bien, concrètement, c'est toute l'équipe qui en pâtit, quoi. Donc, au contraire, moi, ce que je te propose de faire, c'est plutôt de faire des croissances, un peu comme, pour moi, l'image qui est la plus proche, c'est les bouchons, en fait, c'est un peu terrible, mais de temps en temps, ça avance, de temps en temps, ça s'arrête, mais cette forme un peu d'accordéon, tu vois, je trouve que c'est assez sain dans la vie d'une entreprise, c'est-à-dire que tu peux faire 2 ans de croissance, ensuite 1 an de un peu plus de repos, ensuite 2 ans de croissance, mais tout le temps la croissance au même rythme, franchement, c'est très difficile, je trouve.
Oui, c'est exactement ça. C'est vrai que c'est tout à fait mon état d'esprit où je me suis dit, une année de plus comme ça, ça va être compliqué à tenir psychologiquement. D'autant plus que cette croissance, comme tu l'as dit, où on fait beaucoup de choses en même temps et où on porte les choses à bout de bras. Et du coup, à en avoir trop fait, je me suis rendu compte aussi que forcément, quand on fait des choses, on fait aussi des erreurs. Et ça m'a amené à commettre quand même 2-3 erreurs, un peu, une notamment qui aurait pu être importante. Heureusement, elle l'a pas été. C'est bon, les finances de l'entreprise sont saines, mais notamment une erreur vis-à-vis d'un client où je suis allé un petit peu vite en besogne, on n'a pas signé le contrat et puis à la fin, ça s'est pas très bien passé. Donc il y a des choses. C'est vrai que c'est l'engouement et le côté euphorisant aussi de la croissance où on avance toujours très très vite. Et on oublie des fois de faire certains basiques, quoi. Et c'est ça vraiment qui m'a poussé à vouloir lever le pied. Et pour filer la métaphore automobile comme tu l'as fait, je dirais que, alors peut-être effectivement ce côté bouchon, mais aussi tout simplement que je suis dans un côté, j'ai envie de dire plutôt de négocier un virage, en fait, où on est allé à fond dans la ligne droite.
Ouais, c'est ça.
De tourner et de décélérer.
C'est plus flatteur, j'aime bien. C'est plus flatteur, t'as raison Yannick. Je voulais juste aborder un petit sujet parce qu'il pourrait peut-être t'intéresser, c'est que du coup si t'estimes que là tu vas plutôt être dans la phase du virage et donc tu dois un tout petit peu ralentir pour ensuite réaccélérer sur une ligne droite juste après le virage, peut-être qu'une bonne option serait que tu recrutes, si c'est pas déjà fait, une personne qui justement aura ce rôle de gestion, d'optimisation. Souvent, c'est ce qu'on appelle un directeur des opérations. C'est une personne, si tu veux, qui est là pour gérer l'administratif, pour gérer la comptabilité, pour gérer les recrutements aussi, pour faire en sorte finalement que la gestion courante tourne. Et c'est vrai que si tu arrives à recruter une personne de confiance et à bien la former pendant cette période où tu as peut-être un petit peu plus de temps parce que tu appuieras moins sur l'accélérateur, bah ensuite, le jour où tu réappuies sur l'accélérateur, ce qui est génial, c'est là que tu en as sous le pied et tu vas pouvoir vraiment pousser la bête assez loin. Alors qu'à l'inverse, si c'est à nouveau toi qui vas devoir éteindre des feux toutes les 5 minutes parce que tu n'as pas recruté cette personne-là ou ces personnes-là, ça va être d'autant plus difficile parce que tu auras la croissance à gérer plus toute la gestion à côté.
Ouais, alors ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que j'avoue que je n'y avais jamais pensé d'abord. Je suis toujours dans la phase de recherche, de recrutement, mais de personnes plutôt avec des profils créatifs, qui savent écrire, qui savent gérer les réseaux sociaux, du graphisme, des choses comme ça, bon, qui sont nécessaires dans une agence de presse et de com. Par contre, j'avais pas pensé à un profil administratif et plutôt gestionnaire. Donc ça, c'est vrai que c'est une option hyper intéressante que tu me mets devant les yeux et que j'avais jamais regardé, en fait. J'avais jamais mis ça sur la table, tu vois.
Bah, écoute, je connais pas suffisamment ton business, mais disons que les premiers profils, souvent qu'on recrute, c'est effectivement des gens qui nous aident à développer. Mais assez rapidement derrière, surtout quand on a une entreprise qui a la chance de croître, une personne qui est un peu le pompier, si tu veux, de l'entreprise et qui est là pour mettre un cadre, pour réussir à créer des premiers processus. Ce qui souvent n'est pas le fort de l'entrepreneur, hein. Il faut le dire en plus. Je sais pas quel est ton cas, mais moi, par exemple, alors j'ai appris à le faire à la dure, mais franchement à la base c'était pas mon truc, moi j'étais plutôt ce qui m'éclatait c'était de développer. Et du coup réussir à recruter une personne comme ça qui va être un peu ta base solide, qui va faire en sorte qu'il pleuve, qu'il vente, les factures sont payées, les fournisseurs sont payés, mais aussi les clients te payent, enfin que tout soit sous contrôle et que ça soit une personne, on va dire, d'un niveau suffisant pour que vraiment tu puisses te reposer dessus après l'avoir formé, bien sûr. Ça, je pense que c'est quelque chose qui au début risque de te faire perdre évidemment du temps comme toujours un recrutement, mais assez rapidement on va te faire gagner un temps incroyable qui va probablement faire que tu vas pouvoir réaccélérer plus vite que tu ne crois. Puisque aujourd'hui, j'imagine, enfin pour connaître un peu le monde de l'entreprise, que tu passes pas mal de temps aussi à faire de la gestion, et ce temps-là, peut-être que c'est un temps que tu pourrais déployer de manière plus efficace en fait ailleurs. Donc autant peut-être t'entourer d'une personne qui dont vraiment c'est le métier, si tu veux, et qui fait que ça toute la journée, qui est formée pour ça. À toi de voir exactement ce que ça signifie dans ton métier, mais probablement la partie RH. C'est-à-dire, comme tu parlais des recrutements, etc., c'est la gestion humaine, la gestion de l'organisation, c'est-à-dire créer l'organigramme, qui reporte à quelle est la structure située de ton entreprise. Pour l'instant, vous n'êtes pas très nombreux, mais tu vois, si un jour vous êtes 10, 20, 30, un jour 100, tu es obligé de commencer à créer des organigrammes. Et au-delà de la partie organigramme, la partie, on va dire, juridique, administrative, c'est vrai que ça prend énormément de temps. Malheureusement, en plus, la France fait qu'on ne peut pas tellement avoir le droit à l'erreur, donc il faut quand même bien le faire. Mais du coup, pour bien le faire, il faut quand même une personne qui soit dédiée à ça, qui aime ça, qui soit forte pour ça. Et je pense que toi, ça peut être le cas, hein, peut-être. Mais si ça n'est pas le cas, tu as plutôt intérêt à découpler ça de ton travail et à trouver une personne. Au début, du coup, tu auras peut-être un petit peu moins de rentabilité parce que forcément, tu auras un profil assez senior peut-être en plus d'entreprise. Mais franchement, mon expérience, Yannick, c'est qu'à l'inverse, déjà, le temps et l'énergie et tous les problèmes en fait que ça va t'enlever, c'est vraiment du pain béni. Et puis d'autre part, ça va te permettre de à terme, je pense, être plus rentable parce que c'est souvent une personne aussi qui est assez bonne en gestion des coûts et peut-être, tu vois, qui va te permettre de réussir à optimiser un certain nombre de process qui aujourd'hui sont peut-être un peu foireux parce que c'est le début et que vous êtes en forte croissance, qui te permettra donc probablement d'optimiser des coûts et donc au final d'avoir une meilleure rentabilité. Donc, c'est à mon avis, vu ce que tu me décris, une fois de plus, hein, je ne connais pas suffisamment ton business, mais je pense que tu n'es pas loin d'avoir besoin de ce profil.
Ouais, c'est pas impossible. Toi, à partir de quelle taille d'entreprise tu as justement commencé à recruter ce type de profil-là?
Alors, moi, j'ai plusieurs entreprises. Ce qui est rigolo, c'est que chez Gemio, bah, en fait, j'ai envie de te dire dès le début, parce qu'en fait, moi, j'étais associée avec mon mari et que la chance que j'ai, c'est que mon mari est typiquement plus ce profil-là. C'est-à-dire que lui, il est ingénieur de formation et sans faire de caricature, en gros, il aime les choses carrées. Il aime structurer, il aime scaler. Moi, j'ai énormément d'idées et lui, il arrive, si tu veux, à en faire des machines hyper efficaces, si tu veux, et rentables. Donc, notre couple aussi, dans la vie professionnelle et personnelle, a très bien fonctionné à cause de ça, mais donc je l'avais pour Gemio dès le début. À l'inverse, pour le podcast, puisque je l'avais lancé toute seule, et quand je dis podcast, c'est podcast et formation, là, j'avais personne, en fait, pour m'aider, et donc j'ai attendu un peu de temps, j'ai attendu, je dirais, j'ai commencé à monétiser le podcast, les formations, et je dirais que j'ai attendu à peu près un an après la monétisation du podcast et des formations pour me faire aider par une personne aux opérations, une responsable des opérations, Marie, que je salue d'ailleurs. Et pour moi, c'était assez indispensable, parce qu'en fait, comme j'avais deux activités en même temps, j'avais encore moins de temps à consacrer, si tu es à l'administratif, au RH et tout ça. Et donc, c'est arrivé encore plus vite. Même quand je faisais assez peu de chiffre d'affaires, je sais pas, 100 000, 200 000 euros, un truc comme ça, j'étais obligée de recruter tout de suite, si tu veux, parce que j'avais vraiment pas le temps, en fait, de le gérer. Donc, moi, c'est arrivé assez tôt. Toi, ça peut peut-être venir plus tard, parce que j'ai l'impression que c'est toi qui as cette casquette. Mais néanmoins, tu peux toujours te poser la question... Tout ce temps que je passe à faire de l'admin, à faire du juridique, à ne pas parfois le gérer parce que tu n'as pas le temps et que c'est pas ton kiff, bah, qu'est-ce que je pourrais faire à la place, tu vois? Bah, passer du temps en famille, recruter plus, trouver des nouveaux clients, travailler plus sur le fond avec tes équipes créatives. Bref, garder ton rôle, mais pas exactement sur les mêmes domaines que ce que tu fais exactement. Et ça, il est probable que du coup, ça apporte en fait au final plus de valeur ajoutée à l'entreprise que ce que tu fais actuellement, où tu fais un peu tout, si je comprends bien.
Ouais, je fais un petit peu tout, comme tout dirigeant de petites structures comme ça. Hein. Ça, c'est une évidence, mais néanmoins, c'est vrai que le choix que j'avais fait, là, tu me confortes tout à fait dans ce choix-là, c'était de me concentrer désormais dans les tâches où j'avais le plus de valeur ajoutée. Donc ça, c'est évident. Néanmoins, la gestion, on n'a pas l'impression que ça apporte pas effectivement du chiffre d'affaires en soi, mais bon, c'est des choses qu'on doit malheureusement se fader, si tu me permets l'expression, qu'on doit faire et que tôt ou tard, oui, c'est quelque chose.
C'est indispensable. C'est pas pour autant que cette personne, il faudra pas la contrôler au sens vérifier que tout est bien fait, que c'est en concordance avec ta vision des choses et tout, tu vois. Donc ça reste toi le manager, mais c'est pas pour autant que c'est toi qui es obligé d'être les mains dedans et de le faire de manière opérationnelle. Et c'est vrai que si en plus, t'as eu vraiment 2-3 ans de très très forte croissance, maintenant vous commencez à être 5 personnes, tu vois, à 5 personnes, ça me paraît pas du tout déconnant d'avoir un directeur des opérations, enfin appelle-le comme tu veux, responsable des opérations, directeur des opérations, qui gère à la fois ta partie financière et ta partie humaine, ça me paraît tout à fait légitime, d'autant plus que tu risques d'avoir encore quelques années, de belles années de croissance, et je te le souhaite devant toi, si vous passez une fois de plus assez rapidement à 8-10 personnes, enfin ça commence à être un travail assez rapidement, tu vois. Donc, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas, même peut-être dans un premier temps, avoir cette personne à temps partiel, si c'est trop, tu vois, de l'avoir à temps plein. Mais commencer à avoir une personne qui t'aide sur ces sujets, ça me paraît pas, en tout cas, stupide. À toi d'y réfléchir, bien sûr, je ne connais pas suffisamment ton business. Mais de ce que tu me dis, je pense que le sujet, c'est peut-être plus ça, à la rigueur, que rentabilité versus croissance, si je comprends bien.
Ouais, les deux, parce que en définitive, la croissance, moi je la recherche quand même, parce que c'est vrai que le feu sacré gelé, c'est un peu comme toi. J'aime aussi le développement, j'aime aussi continuer à grandir, mais voilà, comme tu l'avais très bien dit sur un de tes podcasts, je n'ai pas envie de grossir, j'ai envie de grandir. Mais c'est pourquoi j'ai vraiment volontairement décider de faire ce choix, de prendre ce virage et de me couper de certains types de clients, de choisir les clients comme je veux, donc d'en refuser, de choisir certaines qualités de clients aussi pour avoir plus de gamme et pour tirer un petit peu plus de marge aussi. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, j'ai besoin aussi de recruter des personnes dans le créa, vraiment. D'ailleurs, actuellement, je recherche quelqu'un.
Le message est passé.
Sur la relation presse. Aussi, s'il y a un auditeur qui veut travailler dans la relation presse sur la Côte Basque, il est bienvenu du côté de Biarritz. Et pour ça, c'est vrai que notamment il y aura ce recrutement-là, et après je pense qu'il y en aura d'autres aussi en termes de créa. Et c'est vrai que du coup, cette personne-là dans la gestion, dans l'administratif, pourrait aussi m'aider dans ces processus de recrutement et d'onboarding et tout ça.
C'est
quoi.
Clair, c'est clair.
Ça prend du temps, quoi.
Bah c'est ça. Ça prend énormément de temps, et puis j'imagine que t'as quand même beaucoup de profils créatifs. Vous pouvez commencer à construire un deck commun, tu vois, sur l'identité de l'agence, quelles sont les valeurs importantes pour vous, qu'est-ce qui compte pour les clients. Enfin, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Mais j'imagine effectivement que, en gros, tout ce travail, si tu veux, de structurer en fait des processus pour que les opérations tournent bien, c'est quelque chose, franchement, qui est beaucoup de travail. Et c'est normal parce que c'est pas facile. C'est beaucoup de travail, mais c'est très utile pour l'entreprise, pour la rendre solide de telle sorte qu'ensuite on arrive à mieux croître derrière. Et donc je pense que si tu fais ça, une fois de plus, la rentabilité ensuite sera beaucoup plus intéressante pour toi parce que t'auras, comme on le dit là sur le fait de grossir versus grandir, ce que ça veut dire, c'est que t'auras pas juste artificiellement 150, je dis stagiaires, c'est pas des stagiaires, mais 150 personnes qui travaillent pour toi, mais qui en fait sont pas des personnes, si tu veux, qui sont très structurées et qui apportent autant de valeur ajoutée qu'ils le pourraient à l'entreprise. Et ça, c'est hyper important de se dire, et j'ai toujours été moi dans cette optique en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire d'avoir des entreprises rentables. Et c'est pas à la rentabilité, parfois ça fait un peu sale comme mot, mais c'est au contraire, ça veut dire que l'entreprise apporte un maximum de valeur ajoutée au monde, au sens où elle a pas besoin d'investissement extérieur, d'être un peu comme sous intraveineuse, tu vois, d'argent. Non, en fait, c'est que chaque salarié apporte tellement de valeur ajoutée à l'entreprise et à ses clients qu'en réalité, l'entreprise peut être autofinancée. Que c'est les clients, et ça, je trouve ça dingue quand j'y pense, qui financent l'entreprise, quoi. Et pour ça, en fait, il faut que chaque service qu'on propose ou chaque produit qu'on propose compte, mais aussi que chaque employé soit à la bonne place, au bon endroit, et qu'il apporte un maximum de valeur ajoutée. Et de temps en temps, on peut avoir, quand on a beaucoup de croissance, un peu le travers de recruter, mais sans bien former les personnes. Et du coup, naturellement, ces personnes-là, elles sont un peu jetées à l'arène. Alors parfois, il y en a qui s'en sortent très bien, mais parfois non. Et du coup, on a l'impression d'avoir une structure énorme qui cartonne. Et puis la réalité, c'est que c'est un peu un ballon de baudruche et que en fait, c'est pas si solide que ça, quoi. Donc moi, je t'incite quand même à faire ce que t'es en train de dire en réalité, c'est-à-dire de construire vraiment une boîte solide qui pourra aussi un jour se passer de toi peut-être, en tout cas tu pourras partir tranquillement en vacances avec des personnes, tu vois, sur lesquelles tu peux compter, parce que c'est ça la vraie liberté au final. C'est pas juste d'avoir des employés et de courir après les clients en permanence et après le chiffre d'affaires. C'est d'avoir une entreprise qui arrive à être vraiment autonome et qui crée de la valeur presque indépendamment du dirigeant. Ça, c'est magique quand ça arrive.
Exactement, c'est le but ultime, hein, effectivement c'est le but ultime, c'est d'arriver à avoir fondé une structure dans laquelle on n'est plus indispensable. C'est là qu'on a réussi, clairement.
Bon, on se refait pas, Yannick, donc toi et moi, on aura quand même envie de mettre notre nez dedans de temps en temps, mais au moins, ça sera par plaisir et pas par contrainte. Bon, écoute, en tout cas, merci pour ta question qui était super intéressante. Dis-moi, comme tu nous parlais quand même de recrutement, enfin, je suis sûre que ça peut intéresser certains des auditeurs, où est-ce qu'on peut faire si on veut postuler, peut-être d'ailleurs qu'on souhaite être client aussi de ton agence, où est-ce qu'on peut te retrouver, Yannick?
Alors moi, on peut me retrouver directement sur Instagram en direct. Ça sera le plus rapide, on va dire. C'est là où je suis le plus présent. Donc Yannick-Revel, R-E-V-E-L.
Okay.
Il y a également l'Instagram de l'agence qui est Agence La Cuisine, tout attaché. Et on peut aussi par mail contact@agencelacuisine.com.
Donc, si on veut postuler, contact@agencelacuisine.com. Et donc, tu dis des profils créatifs et notamment dans les relations presse sur la Côte Basque, si j'ai bien noté.
Aujourd'hui, c'est exactement ça, en sachant qu'on a une agence sur Bayonne et une autre sur Bordeaux. Mais par contre, le poste, celui-ci, serait vraiment sur Bayonne.
Trop sympa. Écoute, Yannick, je te souhaite évidemment énormément de succès encore à venir, surtout la santé. Et puis, je te remercie pour ta question.
Ha ha ha. Merci beaucoup, Pauline. Merci à toi. En tous les cas, je vois qu'on a une vision assez similaire des choses. Donc, je suis assez rassuré par ta réponse parce que finalement, elle rejoint assez bien ce que j'imaginais, ce que j'avais réfléchi, ce que j'avais pensé. Et en plus, avec le petit plus auquel tu m'as fait penser, qui serait effectivement ce recrutement d'une personne plutôt profil gestionnaire auquel je n'avais pas pensé. Donc, ça, merci beaucoup d'avoir mis ça maintenant dans mon
prisme, radar,
dans mon réflexion.
Super. Eh ben merci à toi Yannick, à bientôt.
Merci beaucoup Pauline, à bientôt.
Et voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette leçon vous a plu. J'ai pour ma part passé un très bon moment. Bah, si ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à diffuser cet épisode, bien sûr, autour de vous, sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram et j'en passe. Et puis, pourquoi pas un peu de bouche à oreille, hein, de vive voix, ça marche aussi. Et puis surtout, si vous souhaitez postuler à une leçon, eh bien, c'est très simple. Vous pouvez me contacter sur mes réseaux sociaux, Pauline Legno sur Instagram, sur LinkedIn, Pelegno sur Twitter. Et puis, pourquoi pas avec hello@paulinelegno.com. On répond à toutes vos questions. Merci à toutes pour votre attention et puis je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.